Il me revient la très agréable tâche de vous souhaiter la bienvenue au nom de toute l'équipe des archives Françoise Dolto. Alors j'ai d'abord le joyeux devoir de remercier du fond du cœur toute l'équipe de l'UNESCO, Monsieur Jean-Pierre Boyer, secrétaire général de la Commission nationale française auprès de l'UNESCO, qui sera aujourd'hui représenté par Jeannine d'Artois. Monsieur Koichiro Matsura, qui est le directeur général de l'UNESCO, Monsieur Pierre Sané, sous-directeur général pour les sciences sociales et humaines, Madame Mufida Goucha, chef de la section sécurité humaine, démocratie et philosophie, ainsi que son assistante Ferriette Aït Ouyaya, sans lesquelles rien de tout ça n'aurait été possible. Et puis bien sûr, Antoine Gallimard, qui depuis 20 ans veille sur l'édition des œuvres de Françoise Dolto et a soutenu indéfectiblement les archives qui, sans lui, n'auraient pas pu mener leur tâche depuis 20 ans. Et bien sûr, si on parle d'édition, je voudrais saluer Colline Fort-Poiré, éditeur en charge de Françoise Dolto chez Gallimard, qui nous a aidés plus que je ne saurais le dire. Et puis aussi la Fondation de France, qui répond toujours présent quand il s'agit de Françoise Dolto, et la mairie de Paris, qui nous a donné un joli coup de main aussi. Alors, c'est à la section démocratie et philosophie et sciences humaines de l'UNESCO que nous devons l'honneur de célébrer aujourd'hui la Journée mondiale de la philosophie, qui est cette année consacrée au centenaire de Françoise Dolto. Ces noces entre la psychanalyse et la philosophie choqueront peut-être certains philosophes ou certains psychanalystes. Pourtant, à mes yeux, le rapprochement est évident. La psychanalyse, en effet, c'est bien une recherche des causes premières. Et c'est à la suite d'une véritable réflexion sur la société que Françoise Dolto a cherché à mettre au service de la société, de la communauté, le savoir et l'expérience que lui ont apporté ses patients, pour que leur souffrance ne soit pas perdue, mais vienne irriguer le corps social. Elle voulait que la souffrance des uns serve au moins à amenuiser celle des autres. D'où, toujours dans sa vie, ce désir de médiatiser et de faire connaître ce que la psychanalyse pouvait nous apprendre dans une dimension qu'on pourrait qualifier de préventive tout en mettant beaucoup de guillemets, mais nous en parlerons. Pour elle, tout sujet était pensé dans son devenir, dans son contexte, non seulement familial, mais social, local, inséré dans un monde avec lequel il doit pouvoir vivre s'il ne peut pas le transformer. Elle en savait long sur le danger qu'encourent ceux qui se coincent dans la posture de la victime. Faire avec, ne pas s'attendrir sur soi-même, c'était son art de vivre. Et elle en faisait profiter ses patients, ses proches et ses concitoyens. Elle pensait toujours en psychanalyste, mais elle agissait en citoyenne, sans jamais confondre les deux registres, ce qui n'a pas été toujours compris. C'était sa philosophie, et elle était prête à la mettre à l'épreuve des faits, dans toute la société, à l'école, à l'hôpital, en prison, pour les handicapés. Elle a été une grande militante de la langue des signes et dans les maisons vertes, comme nous le verrons dans ces 3 jours. Alors, actualité d'une pensée, c'est le titre que nous avons choisi. Comment est-ce que ce que nous a laissé Françoise Dolto, née il y a 100 ans, morte il y a 20 ans, peut encore être adapté au monde tel qu'il est devenu depuis sa mort? À notre époque, où tous les enfants sont censés être désirés, ou programmés, ou décidés, ce qui change énormément la donne. Il faut lire les articles de Marcel Gaucher là-dessus, c'est très très important. À cette époque où les adolescents mènent le monde, et où l'infantile, qui fonctionne en si bonne synergie avec le commercial et le virtuel, transforme peu à peu nos vies et nos pratiques. À cette époque où flotte un certain devoir de bonheur, un droit à jouir comme un droit à l'enfant, quitte à le fabriquer comme des vétérinaires, dans un contrat où s'entrelacent au même instant la rencontre des gamètes et le contrat de location du ventre maternel qui signifie promesse d'abandon. Eh bien oui, Dolto, ça fonctionne très bien dans ce monde-là, parce qu'elle nous ramène toujours à l'essentiel, c'est-à-dire au sujet, source autonome de désir, en charge de lui-même, sujet de son histoire, de sa conception à sa mort. Alors beaucoup de gens vont parler pendant ces 3 jours, vous allez parler, nous allons dialoguer, et chacun va mettre en valeur une facette de ce qui l'intéresse le plus chez Françoise Dolto. Alors, je vais vous livrer la mienne, ma facette. Et je commencerai par la citer. Dans Personnalogie et image du corps, elle écrit « La question que pose tout être humain à tout être de son espèce, de sa conception à sa mort, est « Où est ce par quoi j'aurais l'être ?» Tout homme sain l'est dans la mesure où, cherchant cette réponse ailleurs qu'en lui-même, il trouve à la poser le courage de vivre dans l'espoir de la résoudre. Tout homme malade est celui chez qui cette recherche altère l'authenticité de la question ou l'authenticité dans l'attente de la réponse. Pour moi, c'est une phrase, évidemment, comme je ne suis pas psychanalyste mais aptothérapeute, c'est une phrase qui m'enchante et sur laquelle je pourrais méditer pendant des heures, parce qu'il s'agit de l'essentiel. Avoir l'être humain, bien sûr, c'est-à-dire tricoter sans cesse de l'avoir, des soins, des rencontres, des échanges, pour construire son être. Elle nous convoque en ce lieu où se nouent la chair et l'esprit, et où on sort de la pensée dualiste qui les sépare. Quelles sont les conditions, les manières de faire, d'aider quelqu'un, ce tout petit mammifère parlant et se souvenant, doué de toutes ces incroyables capacités conscientes, non conscientes, inconscientes, ballottées dans les vagues de l'affectif, qui est le sujet d'étude le plus complexe qui nous soit donné à étudier? Comment faire pour qu'il se tire, se hisse toujours et encore vers ces valeurs d'humanité? Comment aider à comprendre comment ce corps dans lequel le sujet est assigné à résidence dès sa conception peut devenir chair, c'est-à-dire lieu de symbolisation et de mémoire, au fur et à mesure que l'amour guetté, espéré, reçu, donné, partagé, mais aussi la haine, les pulsions, les projections et les signifiants qui les escortent, s'inscrivent peu à peu dans la chair et y laissent trace. Cette question du corps et de la consommation, des addictions, de l'image de soi, mais aussi de l'image scopique, prennent de nos jours une place cruciale dans la réflexion des thérapeutes, des éducateurs et des pédagogues, et je l'espère des politiques. Françoise Dolto nous a donné, pour penser et travailler ces questions, un outil passionnant et très efficace, la théorie de l'image inconsciente du corps et des castrations symboligènes que Caroline Eliashev appelle d'une façon très pertinente les frustrations maturantes. Alors nous ne sommes pas réunis ici pour célébrer hagiographiquement, mais pour mener ensemble une réflexion critique, libre, mais respectueuse des uns et des autres, pour nous mettre au travail autour d'une pensée et d'une œuvre, pour mettre cette pensée et cette œuvre à l'épreuve du temps. Alors nous sommes très nombreux, et je dois vous confier que je suis très émue de nous voir si nombreux pour réfléchir à la psychanalyse, parce que je pense que la psychanalyse a besoin de nous, parce que nous avons besoin d'elle. Ce n'est pas rien, et ce n'est pas pour rien que notre époque essaye par tous les moyens de s'en débarrasser. Elle est gênante dans une société telle que certains voudraient la transformer. Cette pratique qui est complexe, qui est respectueuse, qui est vivante, qui évolue sans cesse, on ne peut pas l'attraper. Les patients font tout le temps avancer la théorie, qui demande de la patience, de l'écoute, qui protège l'intime, qui doute, qui met en acte la confiance et qui revendique l'indomptable liberté du sujet humain, même celle d'aller mal. Mais c'est une pratique qui n'est pas très souvent rentable, parfois elle l'est quand on l'évalue à l'aune de nos jours, c'est-à-dire dans une perspective courte. Tout ça n'est pas dans l'air du temps, mais ensemble, nous allons quand même célébrer la psychanalyse. Alors, parce que nous sommes très nombreux, je vais demander à chacun de respecter son temps de parole le plus strictement possible, et à vous de respecter les temps de pause. Il n'y aura pas de pause café, puisque le café a été bu avant. Comme c'est compliqué de sortir et de rentrer de l'UNESCO, je vous conseille fortement, pour le repas de midi, d'aller à la cafétéria du 7e étage ou au bar qui est au sous-sol, par là derrière. Mais je ne voudrais pas conclure sans avoir remercié toute l'équipe des archives. La plupart sont bénévoles, et sans eux, cette fête de la pensée n'aurait jamais pu avoir lieu. J'ai envers chacun d'eux une gratitude énorme, mais je voudrais distinguer parmi eux Julia Constant-Daquet, Stéphane Michel, Jeanne Gruson et Serge Papiernik. Ils méritent tous nos remerciements. Et je laisse maintenant la parole à Dominique Versini de Bettencourt, défenseur des enfants.